Les livres. Sélection de Radio Silence. Ici Périnée. À tous, présents et à venir, qui voulez bien nous écouter, salut. Dans la nuit qui décidément s'épaissit autour de nous, ceux restés, à la vérité un tout petit reste, conscients de la gravité de la situation, tentent légitimement de trouver quelque part un peu d'espoir, ou plutôt d'espérance. C'est la quête de l'homme providentiel, de l'exemple à suivre, de celui qui peut faire bouger les choses, changer la donne. Or donc, voici que vient de paraître un ouvrage restituant admirablement la vie et surtout l'action d'un tel envoyé de la Providence. Simplement, ce n'est pas d'un homme providentiel qu'il s'agit, mais d'une pucelle, du latin puella, d'une jeune fille, d'une toute jeune fille, au destin prodigieux, exceptionnel, à savoir le livre « Jeanne d'Arc, 1412-1431, une passion française » par Alain Bournazel, figure et plume, éditeur, dont le directeur de la collection est Jean-Paul Bled. Effectivement, le temps de Jeanne, où la reine, épouse d'un pauvre roi dément, détruit la France et sa personnalité en la vendant au roi anglais, rappelle de façon frappante notre temps présent où, en toute tranquillité, traité d'Europe, je veux dire d'anti-Europe, et pseudo-élite opèrent la dissolution de la France et des autres nations. Pour bien traiter de l'incroyable destinée de la pucelle, Bournazel, à très juste titre, tient compte de la longue durée, faisant remonter la guerre de Cent Ans à la conquête de l'Angleterre par Guillaume, duc de Normandie, et à ce titre, vassal du roi de France. Selon l'auteur, l'hommage que doit prêter Escalité, le roi d'Angleterre, va empester, sic, c'est son expression, les relations entre la France et l'Angleterre. En fait, cet hommage a effectivement un caractère symbolique. Son refus par l'anglais exprime, en réalité, l'impérialisme de la puissance anglaise qui ne peut tolérer la rivalité et encore moins la supériorité du royaume d'Hélice. C'est à la fin du XIIe siècle que l'Angleterre devient puissance prépondérante en Europe. En effet, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, déjà duc de Normandie et d'Anjou, donc un prince entièrement français, épouse la merveilleuse Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, c'est elle que représente la reine Guenièvre des romans de la Table Ronde. Cette princesse lui apporte non seulement la perfection de son corps charmant et sa culture prodigieuse, mais elle lui apporte encore la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, la Marche et plusieurs autres provinces, soit plus de la moitié du royaume de France. L'extinction de la branche des Capétiens directs, sans voir mal, par la mort du dernier des trois fils de Philippe le Bel, amène l'arrivée sur le trône de France d'une branche collatérale, la branche des Valois, avec Philippe VI de Valois. Arguant de ce que Philippe VI n'est que le neveu de Philippe IV le Bel, le dernier Capétien direct, le roi d'Angleterre de l'époque, Édouard III, c'est le père du fameux prince noir, prétend à la couronne de France pour ce que, né d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, il est, lui, descendant direct de ce roi, mais par une fille. Là se situe l'origine immédiate de la guerre de Cent Ans. Après des périodes de revers graves, ponctuées de désastres, Crécy, Poitiers, Azincourt, coupées de redressement, pardon, avec Charles V notamment, la patrie de Jeanne d'Arc, en ce début du XVe siècle, est au plus bas, toute prête de disparaître. C'est vraiment grande pitié, et même très grande pitié, au royaume de France. Profitant de la démence du roi, l'abominable Isabeau, reine félonne, par le honteux traité de Troyes en 1420, vend et son royaume et sa fille Catherine au roi anglais Henri V, déshéritant son fils Charles, le futur Charles VII, déchu de tous ses droits. Comme six siècles plus tard, la France est en péril de complète dissolution et de mort. Alors apparaît la jeune fille admirable, prodigieuse. C'est le terme juste, car c'est bien un prodige inouï que cette fille très jeune, 17 ans à peine, l'âge idéal de la femme, envoyé, ou du moins cru être envoyé, pour sauver le royaume de Clovis et de Clotilde. Et cela de façon littéralement fulgurante. De la jeunesse de Jeanne, l'on connaît, et c'est normal, en raison de la modestie de ses origines familiales, peu de choses. On la présente comme de milieu rural, aimant la solitude, extraordinairement pieuse et fervente, adonnée aux occupations normales de son sexe. Citation. « Pour filer et pour coudre, je ne crains femme de Rouen. » Elles étaient réputées pour leur habileté. « Dira d'elle-même la pucelle. » Tout le monde, du moins ceux ayant échappé aux calamiteuses réformes de M. Haby et autres idéologues assassins de l'intelligence, tout le monde donc connaît les fameuses voix entendues par Jeanne, et qu'elle invoquera jusqu'à sa mort, de Sainte Marguerite, Sainte Catherine la Grande, celle d'Alexandrie, et enfin Saint Michel, l'archange de la guerre, pour cette raison toujours représenté sous des traits féminins. Mission lui est donnée, citation, d'aller en France, délivrer Orléans assiégé, faire sacrer le roi, bouter l'Anglais hors du royaume. Bournazel s'abstient, et il a raison, de débattre de la réalité des voix. Il note simplement, à très juste titre, qu'il peut s'agir, tout simplement, de la révolte d'une jeune fille droite et intelligente contre l'ignominie du traité de Troyes, la trahison des plus grands parmi les grands du royaume, le duc de Bourgogne, et des mâles en général, et les horreurs de la guerre anglaise. Après avoir résisté, on la comprend, la jeune fille se soumet à l'ordre reçu, et avec l'appui indispensable du capitaine royal Baudricourt, part pour Chinon trouver le roi. Après 11 jours de chevauchée, quasi miracle, elle découvre celui-ci, qu'elle nomme gentil dauphin pour ce qu'il n'est pas encore sacré, caché sous des vêtements ordinaires parmi ses courtisans. Et elle lui révèle un secret qui, pour un temps, le sort de sa morosité, de son état torpide, et le rend radieux. Il s'agit assurément de la légitimité de sa naissance, qui le torturait, qui le préoccupait, légitimité mise en doute par le clan anglais, se référant à l'inconduite scandaleuse de la reine. À noter, ce secret, comme les dons de cavalière de Jeanne, pourrait très légitimement étayer la thèse de la naissance royale de l'héroïne, naissance royale par la main gauche, elle serait ainsi la petite sœur du roi. Après bien des atermoiements, envers et contre tout, Jeanne, fin avril 1429, avec son escorte, c'est une espèce de maison militaire embryonnaire, peut enfin rejoindre l'armée royale qui peine depuis des mois à faire lever sans succès le siège d'Orléans. La possession de cette place forte est déterminante. C'est la marche nord du royaume de Bourges contre la ruée anglaise au sud de la Loire et c'est le cadenas de la route vers Reims. Entrée dans Orléans le 29 avril 1429, Jeanne obtient la levée du siège dès le 8 mai suivant, un peu plus d'une semaine. Sa fougue, son charisme ont fait ce quasi-miracle. Sa jeunesse aussi, elle évoque irrésistiblement le Cid Campeador dans la pièce de Corneille. Cette rapidité donne à l'événement une dimension quasi surnaturelle. D'un seul coup, comme le relève admirablement Bournazel, Orléans change la donne. La victoire et l'espoir changent de camp. Pour les Français déjà résignés à la défaite, donc à la mort, Orléans, c'est le redressement complet. C'est un miracle du ciel. L'Anglais, lui, est et reste traumatisé, frappé d'une terreur superstitieuse. Ce général féminin de 17 ans, agréable à regarder de surcroît, ne peut l'être, victorieux, que par un pacte avec le diable, ce qui sera déterminant pour la mise à mort de l'héroïne au moment de son procès. Elle sera qualifiée de limier du démon. C'est à bon droit que la grande, la merveilleuse Christine de Pisan, grand poète et patriote, peut écrire ces vers admirables, dont les deux premiers sont cités dans le livre. L'an 1429, reprit à luire le soleil, car toi, pucelle bienheureuse, tu as la corde déliée qui tenait France étroite liée. La campagne militaire qui va suivre va durer un an et quelques jours, 29 avril 1429, 23 mai 1430, jour de la capture de Jeanne. On peut la diviser en deux. Premièrement, après Orléans, un florilège de succès. La campagne de la Loire, avec les victoires de Jargeaux, Pathé, Troyes, Chalon-sur-Marne et Reims enfin, où, le 17 juillet 1429, l'envoyé de Dieu fait sacré et couronné Charles VII, lieutenant de Dieu sur la terre, roi de France. Comme dit la Pucelle, c'est à Jargeaux que se situe, comme dit la Pucelle sur le lieutenant de Dieu, c'est à Jargeaux que se situe un épisode extraordinaire. Suffolk, le général anglais, pour pouvoir se rendre au français Regnault, qui est gentilhomme, mais qui n'est pas lui-même chevalier, et pour pouvoir lui remettre son épée, commence par sacrer Regnault par l'armée chevalier du plat de la dite épée qu'il va lui remettre. C'est magnifique. Heureuse époque où un pareil comportement chevaleresque était possible. Ceci est d'ailleurs dans l'esprit de Jeanne d'Arc elle-même, toujours noble et chevaleresque. S'agissant de la victoire de Pathé, ce lieu où s'illustreront des siècles plus tard les oeuvres pontificaux, sans avoir la dimension d'Azincourt, cette victoire en est toutefois la réplique. Par cette très grave défaite, c'est la prépondérance militaire anglaise qui est abattue. Deuxièmement, à partir de l'été du Sacre, au lieu de victoire, ce sont les échecs qui s'accumulent jusqu'à la capture de l'héroïne le 23 mai 1430. Tout se passe comme si, avec le Sacre, la mission véritable de la Pucelle était accomplie et qu'il convenait que la conduite de la guerre passât au chef de guerre de métier, en vue pour parfaire la reconquête, achevée effectivement par la victoire de Castillon la bataille en 1453. Le charme de Jeanne serait donc rompu. En fait, après Orléans, Pathé et le Sacre, la France du roi légitime se trouve en état favorable pour des négociations, au moins avec la Bourgogne, le plus puissant féodal, ennemi du roi. Un puissant parti pousse à négocier, et notamment la fameuse Yolande d'Aragon, belle-mère du roi, princesse féminine, séduisante, mais aussi, mais avant tout, politique avisée, froide et calculatrice. C'est elle qui semble avoir inventé et lancé Jeanne d'Arc pour la réconciliation qu'elle estime, à juste titre d'ailleurs, bénéfique avec Bourgogne. Jeanne non seulement devient inutile, mais elle est même un obstacle, car elle est pour la guerre à outrance. Ainsi s'expliquerait la façon dont on la laisse tomber après sa capture. Commence alors pour l'héroïne la Via Dolorosa du procès inique en sorcellerie, de janvier à fin mai 1431, sous les auspices de l'immonde évêque Cochon. Pour réconforter le parti anglais, exorciser ses défaites, il faut absolument que Jeanne soit déclarée n'avoir gagné qu'en se livrant au diable, ce qui atteindrait Charles VII pour avoir profité de ses services. Rien ne lui est épargné. Le cachot glacial et une prison d'hommes, les fers aux pieds et autres humiliations, la mauvaise foi aussi de ne lui laisser que ses vêtements d'homme pour la faire manquer à son engagement de ne plus s'habiller ainsi. Une manifestation sans doute du fair-play britannique. Pendant tout son procès, Jeanne fait face héroïquement, comme elle a combattu, désarçonnant ses accusateurs par la force et la pertinence de ses répliques. Malgré l'ignominie de son supplice, c'est en authentique soldat que meurt l'héroïne, le dernier soldat de France, selon Bernanos, in le journal d'un curé de campagne. Que nous lègue Jeanne ? D'abord d'avoir séparé une France française d'une Angleterre anglaise, ce dont, paradoxe, la loue le grand historien anglais sacré, Thackeray. Ensuite, d'avoir permis la constitution d'un État moderne, de conception non patrimoniale, à gérer non comme un bien privé, mais avec la seule considération du seul bien commun contre les égoïsmes de caste. Jeanne d'Arc apporte aussi la preuve que, comme le soutiennent à juste titre des penseurs et historiens de la qualité d'Alain Besançon ou Vénère, l'histoire est bien personnelle et non dépendante du seul matérialisme historique. A-t-elle vraiment créé le sentiment national ? En fait, il existait depuis longtemps. À preuve, cette réplique d'une commère parisienne à un étudiant anglais s'informant sur la cause de la joie populaire qui l'empêchait de dormir, manifestée par la foule qu'il entendait. Réponse de la commère : c'est qu'il vient de nous naître un roi français c'était le futur Louis VIII, le Lion, qui prendra Londres, par lequel votre roi, à vous, Anglais, recevra honte et malheur. Jeanne fut-elle vraiment un stratège, un grand capitaine? Assurément non. Elle n'est ni un Hannibal, ni un Napoléon. Mais sa jeunesse, sa fougue, son côté entraîneur d'hommes ont fait merveille en ces temps où s'était perdu le véritable art de la guerre de l'Antiquité grecque, et notamment que commençaient à redécouvrir seulement les condottières des cités italiennes comme Colleoni, Tolentino et d'autres. La guerre à l'époque est une guerre de siège, de très petits effectifs, 5 à 10 000 hommes au maximum. Jeanne mérite d'être considérée quand même comme un honorable chef de guerre. Surtout, avant tout, Jeanne a rompu une malédiction, un cercle vicieux, celui de l'abandon, de la résignation et de la trahison. Seule parmi les hommes de guerre, est-elle restée féminine? Oui, elle-même apparaît n'avoir jamais tué. Elle a fait batailler les hommes d'armes, leur imposant d'être ce qu'ils devaient d'être, ce devaient d'être. Et c'est spécifiquement féminin d'agir ainsi, comme aussi l'idée de moraliser l'armée en chassant les ribaudes et de se confesser avant la bataille. C'est bien une idée de fille. Peut-elle être revendiquée par les mouvements féministes? Nullement, tout au contraire. En confortant Charles VII, en le faisant sacré à Reims, c'est l'intégrité de l'héritage salique et de la loi fondamentale de succession exclusivement de mâle en mâle que Jeanne a fait triompher. Ceci contre la conception des dames quenouillardes, la quenouille, contre la conception des dames quenouillardes dont est imprégné le traité de Troyes et sa transmission par le ventre. La popularité, le rayonnement de Jeanne ont été immenses, universels. Ainsi, à titre d'exemple, l'on peut citer deux mouvements se réclamant d'elle. Dans les années 20, la brigade féminine des Cristeros, ceux qui s'étaient révoltés contre l'impiété des francs-maçons qui avaient pris le pouvoir au Mexique, brigade féminine est particulièrement héroïque, qui tint à prendre le nom de Légion Jeanne d'Arc. Comme en 1936, se placeront sous son patrimoine et sous son invocation, les volontaires français, il y en eut, partis combattre dans les rangs blancs, dans les rangs nationalistes, pendant la guerre civile d'Espagne. Et sans oublier de mentionner les efforts du Parti communiste français, dit français, en 1944, pour s'annexer Jeanne d'Arc, fille du peuple, je cite la propagande communiste, fille du peuple et résistante communiste. Après la Madone, reine éminente et perpétuelle de France, elle est avec Saint-Louis exactement qui il faut invoquer dans l'horreur des temps présents. Sans oublier de saluer Bournazel de l'Épée pour ce livre si bien illustré, d'une riche densité, un authentique chef-d'œuvre. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois. Et quand ces temps qui rappellent tellement ceux de Sainte-Jeanne d'Arc nous protègent la très sainte Vierge, Saint-Louis et naturellement Sainte-Jeanne d'Arc.